Il y a de l'espoir pour tous les hommes et les femmes. Ainsi donc, comme par la désobéissance d'un seul homme, tous les hommes ont été conduits à la condamnation, de même aussi, par l'acte de justice d'un seul homme, tous les hommes sont disculpés, déclarés non coupables d'infraction, pour être rendus justes devant Dieu et pour une vie juste. Romains 5, 18, et ayant fait la paix par le sang de sa croix, il a voulu par lui réconcilier avec lui-même toutes choses par lui, dis-je, soit les choses qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans les cieux. Colossiens 1, 20, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. 1 Timothée 4, 9 dit l'Écriture ci-dessus. 1 Tim 4, 9, 10 identifie deux catégories d'hommes à sauver, 1 les non-croyants, et 2 les croyants, qui seront sauvés à un degré encore plus grand, avec une récompense bien plus grande. L'Écriture ci-dessus confirme ce que j'ai entendu le Père, en sa présence, me dire et m'expliquer, il y a de l'espoir pour tous. Jésus est mort afin que toutes les personnes soient réconciliées avec Dieu, mais chaque personne doit d'abord faire l'expérience de l'arrachement douloureux du péché, car la réconciliation ne peut avoir lieu qu'entre des objets purs. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'injustice, et quel rapport entre la lumière et les ténèbres ? 2 Cor 6, 14. De la parole du Seigneur au-dedans, la retenue du péché ne suffit pas. Le salut, c'est être libéré même du désir de tes péchés. Seul un cœur purgé du péché est acceptable à Dieu. J'accorde des faveurs à celui qui est pur. Regarde-moi, ainsi aucun péché n'a de place en moi. Le péché chez les croyants est intolérable. Le pur est innocent de toute souillure. Tous seront réconciliés avec Dieu. Les quelques-uns qui sont crucifiés, purifiés et rendus parfaits pendant qu'ils sont sur la terre, avec une grande récompense, et les nombreux qui sont purifiés en enfer. Et, ayant fait la paix par le sang de sa croix, il a voulu, par lui Jésus, réconcilier avec lui-même le Père toutes choses, par lui Jésus, dis-je, soit les choses qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans les cieux. Colossiens 1:20. Pour en savoir plus sur la manière d'être réconcilié et d'entrer dans le royaume des cieux tout en étant encore dans cette vie sur la terre, voir comment bénéficier du pouvoir transformateur de Dieu en attendant le Seigneur. Jésus a dit que peu seraient sauvés, parce que la porte est étroite et que le chemin est resserré, et que beaucoup chercheraient à entrer sans y parvenir. Matthieu 7, 13, 14, Luc 13, 23, 24. Alors qu'arrive-t-il à la grande majorité des gens, y compris 2 milliards de personnes, peu, qui se prétendent chrétiens, qui ne portent pas de fruits, ne deviennent pas purifiés, n'atteignent pas un état sans péché et n'entrent pas dans le royaume des cieux pendant qu'ils sont sur la terre, sont-ils voués à une torture éternelle en enfer? Astérisque, un Dieu, qui torture la grande majorité de l'humanité pour toujours, est une déformation malsaine des Écritures, destinée à transformer notre Père de lumière, de miséricorde, de compassion et d'amour en monstre. Toute personne raisonnable trouve ce concept tordu de Dieu répugnant. Cette fausse conception d'un Dieu impitoyable, punissant éternellement, sert à détourner des masses de personnes du Christ et de Dieu, c'est la doctrine et l'outil du diable. Devons-nous craindre Dieu? Oh oui! Nous devons craindre son déplaisir, comme un bon parent mais infiniment meilleur qu'un humain, il nous disciplinera et nous punira pour les choses que nous continuons à faire mal mais dans un but pour nous enseigner, nous changer et nous réconcilier avec lui dans l'amour. Dieu est amour, l'amour corrige, l'amour discipline, mais l'amour restaure, l'amour ne faillit jamais. Croyez-vous vraiment que Dieu nous a créés afin de pouvoir nous punir et nous torturer pour toujours? Si c'est le cas, vous avez gravement sous-estimé sa puissance, sa prévoyance, sa miséricorde, sa bonté, sa compassion et plus que tout son amour. Le but de la vie est de trouver Dieu, et son dessein ne sera pas contrecarré. Il valorise chaque vie. Nous sommes son œuvre et il nous aime tous. Nous sommes tous un. Chaque personne que vous voyez finira par être votre frère, réconcilié avec Dieu, après avoir été purifié par l'enlèvement de nos convoitises, de nos attachements, de notre égoïsme, de nos addictions et de notre orgueil. Astérisque, une secte déficitaire notable a récemment modifié sa position sur la torture éternelle et affirme maintenant que Dieu est miséricordieux parce qu'il ne torturera les pécheurs que pendant un temps proportionnel à leurs péchés, puis les détruira. Ils ont imaginé Dieu comme un chat qui torture sa proie avant de la tuer et de la manger. Cela peut être de la miséricorde aux yeux d'hommes vindicatifs et non régénérés, mais c'est encore une cruauté sans but et cela reste terriblement naïf quant à la compréhension de Dieu et de l'amour. Dieu ne punira personne pour toujours et ne détruira pas ce qu'il a créé dans l'amour. Pour vivre au ciel, vous devez être purifié, soit dans cette vie avec moins de souffrance et une plus grande récompense, soit purifié dans la vie suivante, appelée enfer. Ni l'un ni l'autre n'est une expérience agréable, mourir à soi-même n'est pas agréable. Les pécheurs ne peuvent pas vivre au ciel avec Dieu, sinon le ciel se transformerait en enfer. Nous devons tous être purifiés pour vivre en présence de Dieu et vivre en parfaite harmonie et en amour avec nos frères. Une croyance répandue veut que tous les chrétiens charnels, qui continuent à pécher, soient purifiés instantanément à la dernière minute de leur vie astérisque pour ensuite vivre au ciel. C'est faux parce que Dieu n'enlèvera jamais notre libre arbitre, et s'il nous purifie sans que nous ayons appris à détester et à haïr nos habitudes et addictions égoïstes, une fois purifiés instantanément, nous retomberions dans les mêmes schémas de comportement égoïste qui nous amènent à embrasser le péché. Donc, dans cette vie ou dans la suivante, nous devons 1. Découvrir l'amertume des passions et des plaisirs que notre cœur désire, et 2. Avec le temps, subir les conséquences de nos passions et de nos plaisirs, tout en aspirant à les voir ôter en cherchant désespérément la grâce de Dieu pour être transformés. En enfer, nos passions ne sont pas retenues, de façon semblable à ce que nous sommes sans retenue face aux convoitises et à la violence dans nos rêves, car nos passions sont les pires des tyrans. Quand nous sommes placés de sorte que nous leur sommes entièrement livrés, elles tourmentent le cœur et, comme un torrent, emportent tout devant elles, sans jamais être rassasiées. Nous devons découvrir que la vraie liberté ne se trouve qu'en celui dont la vérité nous rendra libres et qui nous conduira à comprendre que ce n'est que dans les actions vertueuses, le service pour lui, que nous sommes vraiment libres. Ainsi, lorsque les défauts de notre cœur sont retirés, un par un, nous sommes certains de ne pas retourner au péché par notre libre arbitre. L'amour n'insiste jamais sur sa propre voie, il nous aide plutôt à voir l'erreur du mauvais chemin, afin que nous puissions choisir le bon, puis il nous récompense par la grâce du changement aboutissant finalement à la pureté. Astérisque, cela provient de 1 Cor 15, 51-52, nous serons tous changés en un clin d'œil, à la dernière trompette les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. C'est vrai, la dernière étape d'un long processus de changement se fait en un clin d'œil. Mais avant ce changement en un clin d'œil, nous devons apprendre l'étendue du mal dans notre cœur et apprendre à haïr le mal à tel point que nous n'envisagerions jamais de revenir à nos voies égoïstes. Alors nous, ayant été vivants dans la corruption mais morts à la vie de Dieu, sommes ressuscités à la vie incorruptible en Dieu. Mais la corruption ne peut hériter l'incorruptibilité, la corruption en nous doit être vue, détestée, abhorrée et finalement détruite. Ce qui nous montre nos péchés les autres, et c'est la grâce. Si un pécheur n'avait pas d'abord ses péchés lentement purgés de son cœur, tout en apprenant à haïr tout mal, même si ce pécheur était transporté au ciel, il ne serait pas heureux parce qu'il ne pourrait pas poursuivre toutes ses anciennes addictions. Si vous mourrez en péchant encore, vous seriez absolument misérable au ciel. Tous vos plaisirs et désirs, n'ayant pas été crucifiés sur la terre, ne sont pas disponibles au ciel, et vous seriez misérable sans eux. Vous aspireriez au vieux vin, que vous pensez meilleur que le vin nouveau parce que vous n'avez pas été préparé, crucifié, purifié, l'outre-neuve et libéré des convoitises, de la colère, des désirs sexuels, du ressentiment, de l'envie, de l'avidité, du mensonge, de la jalousie, de la sottise, des réjouissances, de l'ivrognerie, des plaisirs, de l'orgueil, etc. Même vos pensées seraient entendues par tous ceux qui vous entourent, vous seriez terrifié et voudriez courir vers l'obscurité en espérant que vos pensées ne soient pas entendues par tout le monde. Jésus nous a dit la même chose dans la parabole, « Personne, ayant bu du vieux vin, ne désire aussitôt le vin nouveau car il dira, le vieux vin est meilleur. » Luc 5, 39. Un homme doit crucifier ses convoitises et ses attachements sur la croix intérieure du renoncement à soi-même avant de pouvoir jouir de la communion dans les cieux. La purification sur la terre est bien plus facile que la purification en enfer. La purification en enfer est une expérience horrible et obsessionnelle qu'il faut éviter si possible. Une description de l'enfer, de lui à moi, à vous transmettre, et beaucoup de douleur avec un amour inattendu, beaucoup de douleur pour être rendu apte à la reconstruction. Car tous seront réconciliés avec Dieu, tous seront sauvés. Votre vie au ciel sera bien plus gratifiante si vous parvenez à la purification sur la terre. Mais même si vous devez passer par l'enfer, la vie qui en résultera sera bien meilleure que la vie sur la terre. Il y a donc de l'espoir pour tous, plus sur l'enfer plus tard. Mais d'abord, regardons comment la Bible montre l'espoir pour tous, Luc 3, 6, « Et toute chair verra le salut de Dieu », Luc 3, 6, « Le salut, c'est être délivré de tous les péchés et de la mort. » Car il y a un seul Dieu le Père et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, lui-même ayant été homme, qui s'est donné en rançon pour tous, afin que cela soit attesté en son temps. 1 Timothée 2, 5, 6, « Il est la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » 1 Jean 2, 2 « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde. » 1 Jean 4, 14 « C'était le dessein du Père, et il ne sera pas contrecarré. L'amour ne faillit jamais. Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 1 Tim 2, 3, 4 « C'est la volonté de Jésus et de Dieu, et elle ne sera pas contrecarrée. L'amour ne faillit jamais. Le Seigneur est ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » 2 Pi 3:9 « Si le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, alors aucun ne périra, l'amour ne faillit jamais. » Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci est vraiment le Christ, le Sauveur du monde de tous les hommes. Jean 4, 42 « Il n'y a pas d'exception, pas de qualification, pas de ci, pas de mais, il sauve le monde entier. » Le lendemain, j'en vis Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. » Jean 1, 29 « Je ne suis pas venu pour juger le monde chaque homme, mais pour sauver le monde tous les hommes. » Jean 12, 47 « Son but en venant était de sauver le monde, il réussira, car l'amour ne faillit jamais. Car comme en Adam tous sont morts à la vie de Dieu, de même en Christ tous seront rendus vivants. » 1 Cor 15, 22 « Le Père a eu pour dessein de réconcilier par lui Jésus toute chose avec lui-même le Père, par lui Jésus dit « Je sois les choses qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans les cieux. » Col 1, 20 « Et quand toutes choses lui auront été soumises à Jésus, le Fils, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu le Père soit tout en tout. » 1 Cor 15, 28 « Et parce que nous aurons tous appris à haïr le mal, nous vivrons tous harmonieusement dans l'amour, la paix et la joie. » Romains 11, 7, 25, 33 « Quoi donc, Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherche, mais les élus l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. » Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, de peur que vous ne soyez sages à vos propres yeux, un endurcissement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob l'impiété, et ceci sera mon alliance avec eux quand j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir, il ne change pas d'avis et ne les reprend pas. Car de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que vous avez maintenant obtenu miséricorde par leur désobéissance, de même eux aussi ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent eux aussi miséricorde. Car Dieu les a tous les hommes renfermés dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous les hommes, aux profondeurs des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont au-delà de la découverte par l'homme. Col 1, 16, 20 « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dominations, principautés ou puissances. Tout a été créé par lui et pour lui, et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête de son corps, l'Église, et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir en tout la prééminence. Car il a plu au Père que toute plénitude habite en lui, et ayant fait la paix par le sang de sa croix, il a voulu, par lui Jésus, réconcilier avec lui-même le Père toutes choses, par lui Jésus dis-je, soit les choses qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans les cieux. Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés par Dieu. » Jean 6, 45 « Car quand tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Ésaïe 26, 9 « Du monde signifie que le monde entier apprendra la justice avec jugement. On l'apprend dans cette vie ou dans la suivante. Tu as tout mis sous ses pieds. Or, en mettant tout sous sa domination, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. » Hébreux 2, 8 « On ne voit pas encore que tout le monde, toute chose, soit sous ses pieds, mais on le verra lorsque l'œuvre de Jésus sera achevée. Quand toutes choses lui auront été soumises à Jésus, le Fils, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu le Père soit tout en tout. » 1 Cor 15, 28 « Quand Jésus soumettra toutes choses, alors Dieu sera tout en chacun. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, 32 « Attirer tous les hommes à lui, c'est sauver tous les hommes. » Pas tous dans cette vie, mais quelques-uns dans cette vie, et tout le reste dans la vie suivante. Et sur cette montagne, le Seigneur des armées préparera pour tous les peuples un festin de maigras, un festin de vin vieux, de maigras plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il détruira le voile qui couvre la face de tous les peuples, et la couverture étendue sur toutes les nations. Il engloutira la mort dans la victoire, et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, et l'opprobre de son peuple, il l'ôtera de toute la terre, car le Seigneur a parlé. » Ésaïe 25, 6, 8 « Exposez et plaidez votre cause, oui, qu'ils délibèrent ensemble, qui a annoncé cela dès les temps anciens, qu'il a déclaré dès ces jours-là, n'est-ce pas moi le Seigneur, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur, il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous, extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche en justice, et elle ne reviendra point, devant moi tout genou fléchira, toute langue jurera. Ils tous diront, en l'Éternel sont la justice et la force. Tous ceux qui étaient irrités contre lui viendront à lui et seront confus. En l'Éternel, toute la descendance d'Israël sera justifiée et se glorifiera. Ésaïe 45, 21-25. Remarquez, tous les hommes et toutes les femmes se prosternant, confessant et déclarant que le Seigneur est la seule source de justice et de force. La dernière chose que le Seigneur voudrait, c'est que quelqu'un mente et dise faussement quelque chose qu'il n'a pas compris ou ressenti. Il n'est pas malhonnête, et il ne veut pas non plus que les gens soient malhonnêtes avec lui. Au contraire, chacun saura avec certitude et se prosternera volontiers, jura volontiers et dira volontiers, « En le Seigneur seul sont la justice et la force. Toute autre manière ne serait pas la sienne. Ils savent que la justice et la force ne sont qu'en Dieu parce qu'ils sont en Dieu, un avec Dieu, en union avec lui et Jésus. » Astérisque et plus loin, il est dit encore, « Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Confesser Jésus comme Seigneur signifie qu'ils l'ont fait leur véritable Seigneur, gouvernant leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. De la parole du Seigneur au-dedans, toute langue rendra témoignage que Jésus-Christ est Seigneur, il régnera sur tout homme. Astérisque de la parole du Seigneur au-dedans, la justice de Dieu sera révélée à tous les hommes. Il n'y a pas de justice en dehors de Dieu. Quand vous êtes en union avec le Christ et Dieu, quand vous êtes véritablement en Christ, alors vous aussi êtes juste avec force, possédant Dieu comme votre esprit, ordonnant et énergisant chacune de vos paroles et chacun de vos actes, de sorte que vous pratiquez la justice comme Jésus a pratiqué la justice sur la terre. Sa justice sera non seulement révélée en tous les hommes, mais tous les hommes reconnaîtront sincèrement la justice de Dieu comme parfaitement juste, pure et équitable dans tous ses jugements, ses actes et ses paroles. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain, chacun son frère, en disant, « Connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jer 31, 33-34 Le Seigneur a découvert son bras saint aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ésaïe 52, 10 annonçant la fin dès le commencement, et dès les temps anciens les choses qui ne sont pas encore accomplies, disant, « Mon dessein subsistera, et j'accomplirai toute ma volonté, je l'ai dit, je le ferai arriver, je l'ai conçu, je l'exécuterai aussi. » Ésaïe 46, 10, 11. Ne doutez pas de ce qu'il dit qu'il fera, cela sera fait. Ainsi donc, comme par la désobéissance d'un seul homme, tous les hommes ont été conduits à la condamnation, de même aussi, par l'acte de justice d'un seul homme, tous les hommes sont disculpés, déclarés non coupables d'infraction pour être rendus justes devant Dieu et pour la vie éternelle. Romains 5, 18 Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10 11 Confesser que Jésus-Christ est Seigneur signifie que chacun le fait Seigneur de sa vie, son esprit directeur au-dedans de lui, dans l'amour, la paix et la joie. Cela a été confirmé par la parole du Seigneur au-dedans. Toute langue rendra témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. Rendre témoignage signifie le voir ou en faire l'expérience comme étant leur Seigneur. C'est pourquoi nous travaillons et supportons l'opprobre, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. 1 Timothée 4, 9, 10 Cela devrait mettre fin à tout doute sur le fait que tous sont sauvés. Le Sauveur de tous les hommes et femmes, et pour ceux qui croient, le résultat est encore plus grand. Maintenant, regardons ce que George Fox a dit au sujet de tous, ses paroles concordent avec les Écritures ci-dessus. De la lettre 216 de George Fox et alors l'Évangile, qui est éternel, est prêché à toutes les nations du genre humain, et à tous ceux qui sont chassés loin de Dieu dans la puissance des ténèbres, afin qu'ils puissent tous remonter de nouveau vers Dieu, et que la vie et l'immortalité soient mises en lumière par sa puissance toute-puissante, qui expulse la mort et les ténèbres. Elle est donc au grand sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ, la postérité de la femme, qui s'est offert lui-même pour le péché du monde, la pierre du sommet posée au-dessus de tout, lui qui restaure par sa puissance, lui qui a toute puissance dans le ciel et sur la terre, lui qui restaure toutes choses à leur place comme elles étaient au commencement, et qui réconcilie en un par sa puissance toutes choses dans les cieux et les choses sur la terre, détruisant ce qui faisait la séparation et brisait l'unité, à savoir l'inimitié dans l'esprit des gens. De la lettre 320 de George Fox « Car tous étant morts dans le vieil Adam terrestre, Christ, l'Adam céleste, a goûté la mort pour eux tous, et il est une propitiation pour les péchés du monde entier, et il éclaire tous, et sa grâce est apparue à tous, et son esprit est répandu sur toute chair, et son évangile, qui est la puissance de Dieu, est prêché à toute créature sous le ciel. » De la lettre 345 de George Fox, 355 dans l'édition imprimée « Christ, par la grâce de Dieu », a goûté la mort pour chaque homme et s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes, afin que cela soit attesté en son temps, et il est la propitiation non seulement pour les péchés des chrétiens, astérisque, mais pour les péchés du monde entier, astérisque comme Jean l'a aussi écrit, Il est la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2:2. Dans tous les premiers écrits Quakers que j'ai vus, l'écrit de Fox ci-dessus est la seule mention du Christ comme propitiation non seulement pour les chrétiens. Fox vivait à une époque de grande intolérance envers les vues dissidentes de la majorité, et ce qu'il a prêché l'a conduit à être emprisonné pendant 6 ans et demi, ainsi que l'emprisonnement de dizaines de milliers d'autres par ex. William Dewsbury pendant 20 ans, la mort de près d'un millier de personnes et la confiscation de biens à des dizaines de milliers. S'ils avaient prêché que tous les hommes seraient finalement sauvés, ces persécutions auraient été 10 fois pires, car la plupart des sectes dépendaient des récits de torture éternelle pour effrayer les gens et les attirer dans leur secte. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'ai écrit ici, écrit à l'insistance très ferme du Seigneur, est un bâillement pour presque tout le monde, parce que les gens sont bien plus tolérants à notre époque. De même, tiré du journal de Fox Jésus-Christ, qui a goûté la mort pour tous les hommes, afin de les faire sortir de la mort d'Adam et l'expiation pour les péchés du monde entier, et il s'est donné lui-même en rançon pour tous, afin que cela soit attesté en son temps. Quand il écrit « afin que cela soit attesté », il veut dire « afin que cela soit révélé avec autorité et explication complète ». Enfin, ci-dessous se trouvent de merveilleux messages récemment reçus de la parole du Seigneur au-dedans, « J'aime chaque homme, tous doivent parvenir à la connaissance de Dieu ». Le Christ est mort afin que tous les hommes de la terre se relèvent. Dieu éclairera tout le monde verra. La justice de Dieu sera révélée à tous les hommes, tous seront pardonnés à la fin. Toute chair verra le salut de Dieu, toute langue rendra témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. Il régnera sur tout homme, ceux qui ont mon esprit seront épargnés, nous épargnerons l'humanité. Je changerai le cœur de tous les hommes pour qu'ils deviennent comme moi. Tous les peuples seront gouvernés. Il n'y a pas d'échec dans la vie suivante, seulement des personnes qui s'améliorent. Tout le monde sera heureux, chaque personne va être récompensée, chaque personne devient un esclave de Dieu. Être esclave de Dieu signifie être esclave de la justice, esclave de la perfection, esclave de l'amour parfait, esclave de la bonté, esclave de la miséricorde, esclave de la bienveillance, esclave de l'humilité, esclave de la fidélité, esclave de la sainteté, esclave de la paix, esclave de la sagesse, esclave de la gloire, esclave de la puissance et esclave de la vertu. Comme des serviteurs dont les paroles et les actes sont toujours parfaits, vertueux, aimant, miséricordieux, sage, pur, saint et véridique. Comme esclaves de la perfection et de la justice, nous aspirons à un enthousiasme sans borne, à une joie indicible, à une paix qui surpasse l'intelligence, à une confiance éternelle et à des plaisirs à sa droite pour toujours, c'est à cela que nous sommes appelés. Y a-t-il un autre objectif comparable pour votre vie? Ainsi donc, ayant ces promesses bien aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevons la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7:1. Car nous sommes devenus participants de Christ, si nous retenons ferme jusqu'à la fin le commencement de notre assurance. Hébreux 3:14. Plus sur l'enfer, comme faisant partie du salut de tous les hommes, beaucoup de douleurs avec un amour inattendu. La lumière, Christ, est donnée à tout homme qui vient au monde. Jean 1:9. Afin que par la lumière tous les hommes puissent croire. Jean 1:7. En demeurant dans la lumière et en obéissant à la lumière, l'homme reçoit la délivrance de l'esclavage du péché pour devenir un enfant de la lumière, un fils de Dieu. Tant que vous avez la lumière, croyez en dépendez de faites confiance à et obéissez à la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jean 12, 36. Car Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. 1 Jean 1, 5. Ainsi, une petite mesure de lumière est donnée à l'homme afin qu'il puisse croire, ce que la lumière lui montre anonymement, ce que la lumière lui reproche anonymement, ce dont la lumière le convainc anonymement pendant que l'homme est vivant sur la terre. Cette semence, cette lumière ou cet esprit de Dieu est votre talent, qui doit être développé dans cette vie. Si vous ne le faites pas croître, dans la vie suivante il vous est ôté et donné à un autre qui a développé son talent, tandis que vous êtes jeté, comme serviteur méchant et indigne, dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si un homme obéit totalement à la lumière, il deviendra un enfant de Dieu, un enfant de la lumière. Mais s'il est la lumière parce qu'elle reprend son mode de vie et son comportement égoïste, alors il meurt dans ses péchés. Et quand un homme meurt en péchant encore, Christ la lumière sort de lui, laissant l'homme dans une obscurité totale qui est l'enfer. Alors la mesure de lumière que l'homme avait été donnée à un autre qui a développé son talent pendant qu'il était vivant. De la parole du Seigneur au-dedans, quand la lumière s'en va, tu paniqueras, tous les impies paniqueront. 1 Corinthiens 3:15. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, lui-même, toutefois sera sauvé, mais comme à travers le feu. Chaque homme sera finalement sauvé en passant par les temps de feu, une expérience purifiante mais très douloureuse. Vous n'aurez rien à montrer du temps passé sur la terre. Tout aura été gaspillé pour rien. Luc 12, 47-48. Et ce serviteur, qui connaissait la volonté de son maître et ne s'est pas préparé, ou n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de beaucoup de coups. mais celui qui ne l'a pas connu et a fait des choses dignes de coups sera battu de peu de coups. À quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et à celui à qui l'on a beaucoup confié, on demandera davantage encore, remarquez. La torture de Dieu est décrite avec A. un nombre variable de coups, selon ce que vous saviez devoir faire et n'avez pas fait, et B. une peine infligée proportionnellement à l'offense, et dans un but purifier le cœur et les parties intérieures d'un homme, la douleur d'une blessure nettoie le mal, ainsi les coups purgent les parties intérieures y compris le cœur de l'homme. Proverbe 30. Certains reçoivent moins de coups, figure de style décrivant la souffrance que d'autres, ce qui définit moins de temps de douleur, ce qui définit une fin à la douleur, ce qui définit une fin à l'enfer pour un individu, le temps dans le feu dépend de ce qu'il a fait sur la terre. Qu'est-ce que la torture ou la souffrance ? De la parole du Seigneur au-dedans, notre but est de tout porter, vous devez apprendre à supporter la douleur. Soit la douleur dans cette vie, soit dans la suivante. L'enfer, c'est beaucoup de douleur avec un amour inattendu, beaucoup de douleur pour être rendu apte à la reconstruction. Après la mort, il y a un sentiment de regret au sujet de leur vie. Chacun sera connu d'après ce qu'il a dit et fait. Ils ressentent pleinement les effets de la douleur qu'ils ont causée, puis ensuite ils sont soulagés. En enfer, toutes les critiques envers quiconque, ou les actions causant de la douleur à quiconque, sont rejouées, et vous ressentez la douleur émotionnelle et ou physique que vous avez fait ressentir à ces personnes, ensuite vous êtes soulagé, de sorte que la douleur n'est pas permanente. De cette manière, vous apprenez à haïr les erreurs que vous avez commises sur la terre, résolu à ne jamais répéter ces comportements, et à mesure que vous apprenez à haïr le mal, vous êtes attiré vers le bien, ce qui revient à être attiré vers Dieu. Ainsi, nous apprenons de toutes nos erreurs commises sur la terre. La douleur d'une blessure nettoie le mal, ainsi les coups purgent les parties intérieures y compris le cœur de l'homme. Proverbe 30. Dieu discipline et châtie tout fils qu'il accepte. Hébreux 12, 6. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Afin que vous ne viviez plus le reste de votre temps dans la chair selon les convoitises des hommes, mais viviez selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 4, 1, 2. Non seulement la douleur sert à enlever le péché d'un homme sur la terre, mais la douleur sert aussi à enlever le péché d'une personne en enfer. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matt 13, 42, 50. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matt 22, 13, 24, 51, 25, 30. Et ceux qui ont haï ma loi, alors qu'ils avaient encore la liberté, et alors que l'occasion de se repentir leur était encore ouverte, ne l'ont pas comprise mais l'ont méprisée, cela doivent l'apprendre après la mort par la douleur. 4 Esdras 11, 12 à la fin, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs blessures. Psalm 147, 3 et comment sortiront de l'enfer. Il faut payer jusqu'au dernier sou. Figure de style décrivant une pénalité de sa dette pour les péchés commis sur la terre pour en sortir, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou, Luc 12, 59, et par de longues, longues supplications au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes, pour les purifier, après que le dernier sou a été payé, tous seront enseignés par Dieu. Il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, Joël 2, 32, Acte 2, 21, Rome 10, 13, et chaque homme finira par crier au Seigneur pour qu'il le sauve. Comme le dit l'expression terrestre, il n'y a pas d'athée dans les tranchées, ainsi, il n'y aura pas d'athée en enfer. Mais les gens qui ne trouvent pas la sainteté dans cette vie seront punis d'une destruction éternelle, séparés de la face du Seigneur et loin de la gloire de sa puissance. 2 1 9. Remarquez qu'il ne parle pas de destruction de la vie ni de torture, seulement d'être séparés de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance, voilà la punition éternelle. Il y a le royaume des cieux, et le ciel après l'enfer, mais un ciel isolé de la présence et de la gloire du Seigneur. Stephen Crisp, éminent ministre Quick des débuts, a dit « Le parvis extérieur du temple servait à représenter l'Église de Dieu en général, du particulier. Le parvis extérieur n'était pas mesuré, afin que les gentils puissent y entrer. Les gens non baptisés n'avaient pas le baptême de la mort par le feu, aboutissant à un cœur circoncis. Ceux qui n'ont jamais été régénérés pouvaient aller jusque-là dans le parvis extérieur, mais cela ne leur donnait pas droit au privilège de la maison de Dieu, ni à aucun culte ou sacrifice accepté. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. » Matt 10, 28. Celui est Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Rêve 14, 7. Ceux qui ne sont pas purifiés, ceux qui meurent dans leur péché, tous doivent passer par l'étang de feu, communément appelé enfer. Mais pas vraiment l'enfer, parce que l'enfer et la mort sont aussi jetés dans l'étang de feu d'astérisque. Mais l'esprit vit pour toujours et finit par quitter l'enfer pour une vie bien meilleure que sur la terre. Perdre son âme, c'est perdre cette part de Dieu en tout homme qui aurait pu être uni à la plénitude du Christ pour devenir un fils de Dieu. Astérisque remarque, l'enfer où Hadès lui-même est jeté dans l'étang de feu, pour être supprimé, comme la mort, app 24, ainsi le Seigneur va supprimer l'enfer où Hadès lui-même, une fois qu'il aura servi à son but de purification. L'âme ayant été unie au Christ, vit alors dans une dimension d'amour et de vie plus élevée que de vivre seulement en esprit. Le Seigneur appelle cette récompense « le royaume de Dieu », c'est une récompense au-delà de l'imagination de l'homme, au-delà des mots de la terre pour la décrire. L'homme doit renoncer à toute sa vie pour Dieu, en échange, Dieu se donne lui-même à l'homme le plus grand don imaginable, mais que nous ne comprenons pas avant que Dieu soit pleinement connu. Chacun regrettera profondément pour toujours de ne pas avoir obtenu la purification pendant qu'il vivait sur terre, pour deux raisons, un, la douleur de l'enfer, qui semblera durer pour toujours, et deux, la perte de son âme avec la perte éternelle du royaume. Ceux qui auront les regrets les plus profonds seront ceux qui se disaient chrétiens, avaient la promesse continuellement sous les yeux, et n'ont pas recherché la justice de Dieu et son royaume intérieur comme priorité suprême de leur vie, ceux qui pensaient que Jésus était une excuse au péché plutôt que celui qui détruirait le péché en eux, ceux qui ont ignoré son commandement d'être parfait comme votre Père céleste est parfait, ceux qui se contentaient de vivre selon leur chair, adorant dans la fausse église de Babylone, ceux qui se contentaient d'un Dieu supposé long. L'accomplissement du potentiel de l'âme dépasse les imaginations les plus débridées de l'homme. Il offre à tout homme quelque chose qui dépasse notre capacité de compréhension. Si nous ne parvenons pas à être libérés du péché dans cette vie, lorsque nous verrons ce que nous aurions pu devenir, nous serons anéantis. Tous seront anéantis par ce qu'ils auraient pu obtenir pendant qu'ils vivaient sur la terre. Et ceux qui pensaient avoir aimé Dieu seront encore plus anéantis par ce qu'ils n'ont pas su lui donner dans leur vie sur terre, à savoir renier leur nature égoïste, chercher sa direction, la suivre, afin d'apporter à leur honneur et gloire à Dieu en produisant le fruit de l'Esprit. Manquer l'occasion de rendre honneur et gloire à ton Créateur, qui t'a créé ainsi que tout l'univers et les cieux, c'est manquer l'occasion de toute une vie. Ceux qui meurent dans leur péché frissonneront d'un profond chagrin lorsqu'ils regarderont en arrière leur poursuite mesquine, sans valeur, ridicule, quand ils étaient sur la terre, alors qu'ils auraient pu suivre les impulsions de Dieu et connaître les récompenses qu'ils voient et comprennent alors, mais qui leur seront à jamais inaccessibles. Cette tristesse ne quittera jamais ceux qui ne parviennent pas à atteindre le royaume dans cette vie sur terre. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu vis actuellement sur la terre dans une existence maudite, la malédiction de la chute d'Adam, coupée de la vie de Dieu, tout est relatif. L'Écriture nous dit que tant que nous ne sommes pas purifiés et renouvelés à l'image spirituelle de Dieu, nous vivons dans un état de damnation, maintenant, dans cette vie sur terre. Ainsi, la vie après l'enfer peut être meilleure que la terre, mais rien à voir avec ce qu'elle aurait pu être. Ceux qui vivent dans la dimension supérieure auront la mémoire de leurs péchés effacés, tandis que ceux de la dimension inférieure n'oublieront jamais leurs péchés sur la terre et leurs passions et désirs mauvais, qui sont devenus leurs obsessions en enfer. Ceux de la dimension inférieure seront aussi conscients de ceux qui jouissent de la dimension supérieure de paix, de joie, d'amour et de proximité avec Dieu. Par conséquent, même après l'enfer, ils seront continuellement conscients qu'ils vivent dans un état comparatif de châtiment, qu'ils comprendront comme totalement juste et équitable. Ils souffriront d'être privés des joies et des privilèges de la dimension supérieure. D'après la parole du Seigneur au-dedans, un homme souffre de ce dont il est privé. La joie est l'un des fruits du Saint-Esprit, une joie permanente, au-delà de la joie passagère de la terre. Il y a un vieux dicton. Tu ne sauras jamais à quel point c'est agréable tant que tu ne cesseras pas de te frapper la tête avec un marteau. Autrement dit, notre vie dans la chair, séparée de la vie de Dieu, ressemble au fait d'être continuellement frappé sur la tête avec un marteau. Nous sommes misérables, comparés au bonheur que nous éprouvons avec la sainteté. Comme Paul l'a dit, l'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et l'esprit n'a pas imaginé les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. D'après la parole du Seigneur au-dedans, en vérité, je vous le dis, toute la vérité est magnifique, vous serez émerveillés quand vous la verrez. Il y a très peu de personnes qui, lorsqu'elles voient ce qu'est Dieu, refuseraient l'union avec lui. Stephen Crisp a prononcé ces mots dans son sermon enregistré. Là où il y a beaucoup d'orgueil, de malice et d'envie, l'Esprit du Christ l'arrachera, et tout ce mal que l'ennemi a planté dans les hommes, il l'arrachera et fera entrer la justice éternelle, et plantera l'amour dans cette même âme, et l'y établira et l'y affermira. Un tel homme aura plus de joie, de plaisir et de délices sous le gouvernement de l'Esprit du Christ en un seul jour, que quiconque est gouverné par l'esprit mauvais en 1000 jours. Richard Claridge, un Quaker remarquable des premiers temps, a écrit avec profondeur « Le vrai bonheur de l'homme consiste à être véritablement religieux, ou saint selon notre mesure, comme Dieu est saint, car la sainteté et le bonheur sont si étroitement liés que l'un ne peut être ni subsister sans l'autre. La sainteté est le bonheur commencé, et le bonheur est la sainteté en perfection. D'après la parole du Seigneur au-dedans, il est venu une vue selon laquelle le bonheur et la sainteté sont séparables. Et la perfection de la sainteté est expressément recommandée par Paul, ayant donc ses promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 1. Sans la sainteté, nous sommes et nous serons dans la misère. Oui, il y a un enfer. Il est très inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne ressemble pas à l'enfer de Dante. Ce n'est pas du feu et du soufre physique, ce sont des symboles matériels du spirituel, par exemple, notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Il y a aussi en toi un brûlement pour faire quelque chose, le brûlement de la convoitise, mais avec une intensité brûlante plus grande que tout ce que tu as jamais connu, c'est une obsession furieuse. C'est une ville du péché hyperbolique, rage totale, convoitise totale, etc. Le soufre, le sulfure, lorsqu'on brûle le soufre, il produit du dioxyde de soufre, utilisé pour la purification et le blanchiment, symbolise un agent de purification spirituelle. On m'y a emmené parce que j'ai prié, doutant sincèrement qu'il y ait un enfer. Voici ce que j'ai ressenti et vu. 1. J'étais dans une caverne souterraine. Il faisait totalement noir. Je savais que j'étais traqué par quelqu'un d'autre. Je savais que je le traquais. C'était tuer ou être tué. Il y avait beaucoup de peur et d'adrénaline. Soudain, il y eut de la lumière, et devant moi se trouvait la personne, avec une tête d'animal que je traquais et qui me traquait. Nous nous frappions frénétiquement à coups de gourdin. La lumière s'éteignit. J'étais dans une caverne souterraine. Il faisait totalement noir. Je savais que j'étais traqué. Une boucle que j'avais l'impression de voir continuer pour toujours. 2. Je fus ensuite immédiatement transféré dans une caverne éclairée, escortée, avec des couloirs et des pièces sur les côtés. Dans chaque pièce se trouvait une femme nue et un lit. La seule femme que je vis ressemblait à ma femme, encore assez attirante, mais semblait très fatiguée et utilisée au point que sa peau commençait à se dessécher et à se plisser légèrement. Je savais, sans avoir à y participer, qu'il s'agissait d'un rapport sexuel perpétuel avec la personne de cette pièce. Je savais que cela continuerait encore et encore et encore, et qu'au minimum cela semblerait durer pour toujours. Ce n'était pas attirant, ce n'était pas écœurant, c'était tout simplement, ce fut la fin de mon expérience de l'enfer. Cela suffit à me convaincre que c'était réel. Le Seigneur m'a dit un jour, « Si le péché d'un seul homme peut maudire toute la race humaine, combien plus juste est-il que la justice d'un seul homme paie pour les péchés du monde entier ?» Cela paraît logique, n'est-ce pas ? Il est logique. Et la preuve scripturaire de sa déclaration à mon sujet est ainsi, de même que la désobéissance d'un seul homme a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'acte de justice d'un seul homme disculpe, déclare non coupable d'infraction, tous les hommes et les met en règle devant Dieu et leur donne la vie éternelle. Romains 5, 18 En présence du Père, il m'a dit, « Chaque homme et chaque femme est précieux, astérisque chaque personne sera ramenée à lui dans la réconciliation. » Chaque parole prononcée, chaque action accomplie par chacun les conduit à Dieu. Je pouvais voir et sentir la sagesse infinie de Dieu et comment toutes les voies menaient à Dieu, et je pouvais voir et comprendre comment cette vie était une illusion, parce qu'elle n'était rien d'autre qu'un chemin vers Dieu pour chacun et pour tous. C'était accablant, c'était la plus grande expérience de ma vie jusqu'à ce jour. Je ne pouvais voir qu'un nuage, mais je pouvais sentir ses puissants torrents de puissance. C'était comme entrer dans un fleuve puissant de sagesse, voir clairement la vérité, la logique et la réalité infinie de tout ce qu'il me disait. J'ai aussi trouvé le Père rempli de joie, heureux, pardonnant, et en contrôle au-delà de ce que nous pouvons au mieux imaginer. Ce que nous apprenons dans cette vie, nous tous, conduira finalement chacun de nous de nouveau vers Dieu, certains, évidemment, par un processus plus long et plus difficile que d'autres. D'après la parole du Seigneur au-dedans, il n'y a pas d'échec dans la vie à venir, seulement des gens qui s'améliorent. Astérisque, comment chaque homme et chaque femme peuvent-ils être précieux pour Dieu? Pense à un nourrisson, il est pur et innocent. C'est ainsi que Dieu nous a tous faits, purs et innocents. Même Adolf Hitler et Jeffrey Dahmer ont été un jour des enfants précieux et innocents. Oui, sans doute les gens font de mauvais choix, mais selon leurs circonstances, le mal enveloppant du monde corrompt tous les enfants à des degrés divers, et Dieu voit notre innocence qui a été corrompue. Il a un plan pour nous restaurer tous à la pureté et à l'innocence. Tu te dis peut-être, comment chaque parole prononcée et chaque action accomplie peuvent-elles mener à Dieu? Parce que nous apprenons de la douleur de nos paroles et actions incorrectes, nos erreurs finiront par être la source de notre apprentissage du mal, et d'apprendre à le haïr, soit dans cette vie, soit dans la suivante. Et à mesure que nous apprenons le mal, nous nous en détournons, et sommes naturellement attirés vers la vertu, la bonté de Dieu. Il est écrit, « Tous les hommes seront instruits par Dieu, soit sur la terre par le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, désireux de te conduire dans toute la vérité et de te faire connaître toutes choses, soit dans la vie à venir, appelée enfer, qui est beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus longue, et avec moins de récompense à la fin. Nous sommes créés pour être des enfants de Dieu, être aimés de lui et l'aimer. Mais il ne veut pas être en compagnie du mal. Et puisqu'il crée en nous le libre arbitre d'aimer ou de convoiter, il nous envoie d'abord à l'école du mal, la terre, où l'on nous offre la chance d'apprendre le mal avec une grande récompense si nous le faisons, parce que cela aboutit à notre union avec lui, un fils et une partie de lui comme héritier. Si nous ne parvenons pas à vaincre le mal en nous pendant que nous sommes sur terre, nous apprenons le mal en enfer, à la dure, et avec bien moins de récompense une fois terminé. Je répète, en enfer, toutes les critiques envers quiconque ou les actions causant de la douleur à quelqu'un sont rejouées, et tu ressènes la douleur émotionnelle et ou physique que tu as fait ressentir à ces personnes, ensuite tu es soulagé, donc la douleur n'est pas permanente. De cette manière, tu apprends à haïr les erreurs que tu as commises sur la terre, résolu à ne jamais répéter ces comportements, et à mesure que tu apprends à haïr le mal, tu es attiré vers la bonté, ce qui revient à être attiré vers Dieu. Ainsi, nous apprenons de toutes nos erreurs commises sur terre. Il peut contrôler les petits détails de la vie des hommes sans violer leur libre arbitre et leur confiance en eux. Ceux que Dieu a choisis sont protégés par lui pendant qu'ils achèvent leur parcours de recherche. Comme il est écrit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » ou, comme on le soutient, « que Dieu aime », de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors comment aimer Dieu ? Aimer Dieu, c'est l'attendre comme la priorité suprême de notre vie et obéir aux paroles que nous entendons de lui et qui nous commandent d'agir. Nous l'attendons pour entendre ses paroles qui nous enseignent, nous convainquent, nous encouragent, nous changent et nous guident. Voilà aimer Dieu, lui qui protège ce qu'il aime. Il y a plusieurs années, ma femme et moi avons fait l'expérience de cette protection contre la mort. Nous rentrions à pied traversant une rue. Soudain, il y eut un fort rugissement, une voiture conduite par un ivrogne, à un stop tout proche, faisait crisser les pneus à fond et tournait à gauche droit sur nous. Nous avons vu le danger et couru pour nous écarter. Juste devant ma femme, à la toute dernière fraction de seconde, je me suis projeté en avant aussi loin que possible, et la voiture s'est brusquement arrêtée. Mes jambes et mes hanches étaient en contact avec l'aile avant gauche de la voiture, et la jambe gauche de ma femme était en contact avec le pare-chocs avant. Le conducteur était tellement ivre qu'il pouvait à peine parler. Plus tard, le Seigneur m'a dit, « J'ai dû me précipiter dans la rue pour vous sauver. » Pour son intervention salvatrice, nous lui sommes éternellement reconnaissants et confiants en sa protection, pourvu que nous continuions à le chercher comme priorité suprême, la façon dont nous passons notre temps libre montre notre priorité. Mais il n'accorde sa protection qu'à ceux qui le cherchent comme priorité suprême de leur vie, l'attendant et lui obéissant, d'après la parole du Seigneur au-dedans. Tous les autres, destinés à la réconciliation après cette vie, vivent sans protection et sont donc exposés à la mort accidentelle, aux maladies, à la guerre, à la famine, etc. Nous avons le libre arbitre, mais sur les petits détails, il peut nous déplacer comme des pièces sur un échiquier sans violer notre libre arbitre, parce que les détails insignifiants qu'il contrôle ne violent pas les principes de notre cœur, aussi mauvais soient-ils, ni notre confiance en nous. Les choix qui suivent les principes de notre cœur et affectent notre confiance en nous sont faits par nous de façon indépendante, et il ne passe pas outre ces décisions chez quiconque. D'après la parole du Seigneur au-dedans, si les gens veulent prendre une décision de mauvais choix, c'est leur prérogative. Il ne s'agit pas de tirer quelque chose de bon d'une mauvaise situation sur laquelle il n'aurait eu aucun contrôle, il contrôle tout ce qui entoure ce qu'il a appelé selon son dessein, et qu'il aime. Pourquoi, d'après la parole du Seigneur au-dedans, la terre existe pour les saints? La terre est l'occasion, pour chacun, de devenir un avec Dieu en tant que fils, mais pour ceux qui ne sont pas ainsi motivés, ils ne sont que des obstacles, des épreuves et des pierres de polissage dans les illusions de cette vie, qui donnent l'impression que chacun choisit tout indépendamment, mais comme l'a dit la parole du Seigneur au-dedans, chaque homme est mis en place par Dieu. L'illusion, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. L'illusion, c'est que Dieu ne contrôle rien. L'illusion, c'est que nous sommes tous indépendants sous aucun contrôle. C'est une illusion nécessaire, le terreau nourricier qui permet à l'amour de croître sans contrainte. Voir pourquoi le mal est permis pour en savoir plus, tous les hommes et toutes les femmes seront rendus justes. Tous les hommes et toutes les femmes seront glorifiés. Tous seront unis à Dieu par le Christ, mais tous ne seront pas des héritiers, des prêtres et des rois vivant dans une dimension supérieure. Et Jean dit, le diable qui les avait séduits fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apte 20:10. Ce texte est souvent cité pour prouver que tous ceux qui ont été séduits seront tourmentés nuit et jour pour toujours, mais regarde, tout le monde n'est pas tourmenté pour toujours. Ceux qui ont été séduits sont jetés dans l'étang de feu et ont leur part dans l'étang de feu, mais ils ne sont pas, eux aussi, tourmentés pour toujours. Ceux qui ont été séduits, après leur temps, sont réconciliés avec Dieu. Mais le diable n'a pas été séduit, il savait ce qu'il faisait lorsqu'il s'est délibérément rebellé contre la direction de Dieu. toute la création sera réconciliée avec Dieu, sauf le diable. De même, les prédicateurs de la damnation par le feu de l'enfer menacent du feu éternel, feu qui est éternel. Mais regarde, le baptême du Saint-Esprit brûle la balle par un feu inextinguible qu'on ne peut éteindre. Matthieu 3:11-12. Or, rares sont ceux qui soutiendraient qu'on est brûlé pour toujours par le baptême du Saint-Esprit. Le feu dure pour toujours, mais une personne n'est pas laissée dans le feu pour toujours, sauf le séducteur originel. La fumée de l'incendie de la prostituée, la fausse église monte pour toujours, mais pas celle des séduits. La fumée est comme un souvenir qui n'est jamais oublié. Tous seront salis de feu. Marc 9:49. Car le jour du Seigneur le fera connaître, parce qu'il sera révélé par le feu, et le feu éprouvera et testera l'œuvre de chacun de quelle nature elle est. 1 Corinthiens 3:13. Tout homme doit passer par le feu, soit par le feu inextinguible du baptême du Saint-Esprit, soit en ayant sa part dans, en passant par les temps de feu inextinguible appelé enfer. Tous seront instruits par Dieu, et tous seront salés de feu. La mort, par le feu, de notre esprit mauvais en chacun est nécessaire afin que tous puissent vivre ensemble dans la paix, l'amour, la bonté et la douceur, tous doivent être purgés du mal dans leur cœur. Cela se produit sur terre pour le petit nombre, qui est volontairement crucifié sur la croix intérieure avec grande récompense. Pour la grande majorité de l'humanité, cette purification a lieu involontairement dans la vie à venir. Si tu meurs sans être entré dans le royaume sur terre, dans la vie à venir chaque jugement que tu as porté en critiquant quelqu'un ou en causant du tort à quelqu'un est rejoué, et tu recènes la douleur émotionnelle et ou physique que tu as fait ressentir, ton jugement de chacun est entièrement ressenti par toi dans chaque détail. Ainsi tu t'es jugé toi-même. Tous les hommes apprendront à haïr le mal, seront attirés vers la bonté, et à aimer la bonté qui est Dieu. Tous les hommes sont alors soumis à la direction de Dieu, Jésus étant le véritable Seigneur de tous les hommes. Notre vie sur terre, l'école du mal, est le lieu où soit nous apprenons volontairement à haïr le mal dans cette vie, soit, dans la vie à venir, nous éprouvons toutes les blessures et tous les torts que nous avons causés par nos actions et paroles mauvaises pendant que nous vivions sur la terre, devenant ainsi dégoûtés de notre passé et totalement résolus à ne jamais répéter ces erreurs. Nous apprenons par nos erreurs commises sur terre. Le livre de l'Apocalypse décrit deux groupes différents d'hommes au ciel. 1 Les 144 000, qui sont les prémices de Dieu rachetés de la terre, qui suivent dans l'obéissance l'agneau partout où il va quoi qu'il commande. Et 2 Une grande multitude que nul ne pouvait dénombrer de toute nation, tribu, peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Cette grande multitude n'avait pas été rachetée de la terre, elle n'avait pas été obéissante, elle n'était pas les prémices mais elle était là, avec le petit nombre, qui était dénombré, 144 000, et qui avait obéi à Jésus durant sa vie sur terre. De plus, dans la Nouvelle Jérusalem, le temple et ceux qui s'y trouvaient furent mesurés, mesurables, dénombrables, finis, l'emplacement et les Juifs spirituels qui s'y trouvaient, ceux dont le cœur avait été circoncis sur la terre pour devenir Juifs obéissant intérieurement. Le parvis extérieur, lui, ne fut pas mesuré. App 21:16 nous donne une mesure supplémentaire. George Fox amplifie de manière significative les dimensions, en se référant à une autre traduction. L'exemplaire grec avec la traduction interlinéaire d'Aria Montanus donne Apocalypse 21, c'est à savoir des stades, 12 fois 12 000, c'est-à-dire 144 000, c'est-à-dire la longueur et la largeur, et la hauteur étant égale est de 12 000 faisant au total 1 728 000 stades, c'est-à-dire 216 000 milles, soit 10 fois la circonférence de la Terre, comme on la compte comme une. En utilisant la circonférence ci-dessus et en ignorant la hauteur, la Nouvelle Jérusalem couvrirait 24 fois la surface de la Terre. Si chacune des 672 milliards de personnes sur la Terre aujourd'hui se tenait dans un carré de 3 ft, chaque personne tiendrait dans la moitié de l'État du Connecticut. Astérisque ainsi, le parvis extérieur de la Nouvelle Jérusalem, celui des gentils, de ceux dont le cœur n'a pas été circoncis sur Terre, est capable de contenir les innombrables autres, non rachetés de la Terre, non prémices, mais réconciliés avec Dieu, ayant traversé les temps de feu pour devenir une compagnie convenable pour le ciel. Astérisque, ces calculs peuvent être vérifiés sur une page séparée. Mais ne fais pas l'erreur de penser que puisque tu y arriveras de toute façon, autant pratiquer autant de mal que possible. Tes efforts pour vivre selon ta compréhension de ce qu'on exige de toi seront portés à ton crédit. Apprendre que donner est plus satisfaisant que recevoir, apprendre que la gentillesse fait du bien, apprendre que dire la vérité, quelles que soient les conséquences redoutées, est toujours le mieux, apprendre à maîtriser ta colère, apprendre à traiter les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent, apprendre à être content de ce que tu as, apprendre la valeur de la fidélité conjugale, apprendre que le pardon et la miséricorde libèrent l'esprit, apprendre et pratiquer ces choses réduira le temps de ta purification en enfer. Beaucoup de coups pour certains, moins pour d'autres. Q. Curieusement, cela est confirmé par les visions de sainte Julienne de Norwich, à qui Dieu assura « Le péché est nécessaire, mais tout ira bien, et toute chose ira bien ». La théologie de Julienne était optimiste, parlant de l'amour de Dieu en termes de joie et de compassion plutôt que de loi et de devoir. Pour Julienne, la souffrance n'était pas un châtiment infligé par Dieu, mais un moyen qu'il utilisait pour nous attirer plus près de lui. Elle a aussi trouvé Dieu heureux et plein de joie, optimiste, confiant et en contrôle. Tu te demandes peut-être, pourquoi ces informations sont-elles révélées seulement maintenant? Réponse : Le discours sur la damnation éternelle par le feu de l'enfer est devenu si bruyant et si nuisible aux âmes pensantes, par son injustice intrinsèque, qu'il a jugé nécessaire de nous rappeler sa valeur, son amour et sa miséricorde pour tous les hommes et toutes les femmes, prouvé par les nombreuses écritures citées ici, que nous avons oubliées et mises de côté. Les vraies brebis sont dispersées par le discours sur la damnation par le feu de l'enfer. Mais le plus important, c'est la seule génération qui est sur le point de subir l'énorme amenuisement de la terre dans une série de grands troubles, dont la famine, les guerres, les catastrophes naturelles, etc. Si nous ne comprenons pas que tous les hommes recevront la miséricorde de Dieu dans la vie à venir, et que plus tôt leur mal est terminé, moins il leur sera difficile de se frayer un chemin vers le salut. Si nous ne comprenons pas cela à fond, alors même les élus pourraient être submergés de doutes quant à la bonté de Dieu. Les troubles seront catastrophiques et effrayants au-delà de notre imagination, et nous devons avoir confiance dans l'amour et la miséricorde ultime qui seront accordées à tous les hommes. Tout est bien qui finit bien, et nous devons comprendre que Dieu a un plan pour que cela se termine bien pour tous les hommes. Maintenant, pour ce cas particulier des enfants, quelle purification est nécessaire pour un nourrisson? Aucune, non, d'après la parole du Seigneur au-dedans, quel péché un nourrisson pourrait-il commettre? Si nous naissions avec le péché, alors les nourrissons qui meurent seraient envoyés en enfer sans avoir commis un seul péché. Cela signifierait que Dieu est injuste, or il est juste au-delà de toute mesure. Quelle purification est nécessaire pour un enfant de 5 ans? Certainement, n'est-il pas logique que la purification des enfants soit bien plus simple que celle de quelqu'un qui a vécu 50 ans d'erreurs, d'habitudes, de convoitises et d'affections? En parlant du jugement, Jésus a dit en Matthieu 7:20-23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles, et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces gens pensaient être chrétiens, l'appelaient Seigneur, et ils avaient accompli des œuvres merveilleuses pensant d'être en son nom. Cependant, ils sont morts en péchant encore, ils n'avaient pas été crucifiés, d'après la parole du Seigneur au-dedans, « Je ne connais que ceux qui ont été crucifiés. Où est leur fruit résultant de la pureté ? » Peux-tu imaginer à quel point ces gens se sentiront trahis ? Ils seront probablement en colère, ils ressentiront probablement du ressentiment et de la méfiance envers Jésus. Leur purification prendra probablement plus de temps que celle des pécheurs, à cause de leur colère et de leur ressentiment, et les « pécheurs » finiront la purification et entreront au ciel les premiers, et les « sauvés » finiront la purification et entreront au ciel les derniers. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Et s'ils sont enseignants ou prédicateurs, non perfectionnés et autorisés par le Christ, et ayant donc enseigné dans l'erreur, leur temps en enfer sera encore plus long, car le sang de ceux qu'ils ont égarés sera sur leur tête, et les ténèbres les plus noires leur sont réservées. Les millions de prédicateurs guides aveugles ne sortiront pas de l'enfer avant que tous ceux qu'ils ont égarés n'en soient libérés. Celui qui mène en captivité ira en captivité, Actes 13:10. Cette écriture s'accomplissait déjà au temps du Christ sur la terre. Les collecteurs d'impôts et les prostituées entraient déjà dans le royaume avant les pharisiens éminents. Ceux qu'on pensait être les derniers étaient avant ceux qu'on pensait être les premiers. La personne qui a la moindre estime d'elle-même peut entendre le plus clairement l'appel à la repentance. Les derniers peuvent entendre l'appel à la repentance, les premiers sont sourds dans leur propre justice ou leur justice imputée par le Christ, qui est censé les excuser de la repentance et de la croix du Christ. Ne confonds pas cela avec le « purgatoire » défini par les sectes romaines et orthodoxes. Quiconque n'est pas purifié entre en enfer, quelle que soit sa profession religieuse. Il n'y a ni prière ni contribution qui puisse hâter leur sortie. George Fox a dit « Ne priez pas pour les morts, ils ont eu leur temps où la prière pouvait les aider. » Et les sacrifices pour les morts sont interdits par l'Écriture. Cet enseignement ne devrait pas non plus être une munition pour les universalistes, car pour échapper à la purification de l'enfer et sauver ton âme, tu dois trouver la voie resserrée et étroite que peu trouveront, et beaucoup chercheront à entrer sans pouvoir entrer. La croix intérieure du renoncement à soi est le seul chemin vers le salut de l'âme, il n'y en a pas d'autre. Si tu perds ton âme, tu vivras seulement en esprit, une dimension inférieure du ciel, et seulement après une longue et douloureuse purification en enfer. Tu regretteras pour toujours de ne pas avoir saisi l'occasion du salut pendant que tu étais sur la terre. Extrait du journal de George Fox. Vous devez avoir communion avec le Christ en ses souffrances. 1 Pie 4, 12, 13. Si vous voulez régner avec lui, vous devez souffrir avec lui. 2 Tim 2, 12. Si vous voulez vivre avec lui, vous devez mourir avec lui. 2 Tim 2, 11. Et si vous mourrez avec lui, vous devez être enseveli avec lui. Rome 6, 4. Et enseveli avec lui dans le vrai baptême, vous ressuscitez aussi avec lui. Col 2, 12 et F 2, 6. Il doit y avoir une entrée dans sa mort, une souffrance avec le Christ, et cela est nécessaire au salut, et non pas temporairement mais continuellement, il doit y avoir un mourir chaque jour. Jésus a dit qu'il rejetterait beaucoup de personnes qui pensaient être chrétiennes, mais qui péchaient encore, et elles n'avaient pas été crucifiées. S'il rejette des gens qui se disaient chrétiens, alors qu'il aime les gens de toutes les confessions, il rejettera aussi ceux d'autres confessions ou sans confession. Un changement total de cœur est nécessaire. Tu ne peux pas te reposer sur ta justice et ton salut en lisant des Écritures sur la grâce et la foi. Si et quand tu es juste, le Christ te le dira. Quand tu es assuré du salut, il te dira « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La réception du salut et l'entrée dans le royaume sont simultanées. Ne compte sur rien d'autre, sauf ces paroles qu'il te dit. » Souviens-toi que Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance, parce que les justes ne peuvent pas entendre son appel à la repentance, hier comme aujourd'hui. » Les justes pensent qu'ils n'ont rien à faire. Ils disent même que la repentance est la croissance des œuvres et que faire une quelconque œuvre liée au salut invaliderait leur faux salut fondé sur la grâce. Ils ne peuvent donc pas entendre son appel à la repentance, surtout s'ils sont occupés à une forme de pratique religieuse, étude de la Bible, participation aux offices d'hymne chant, lecture d'un livre de prière, consommation de vin et de pain, baptême d'eau parlée en langue. Il m'a dit, il est difficile pour ceux qui sont enveloppés dans une forme de voir la repentance vers la vérité. C'était difficile hier, c'est difficile aujourd'hui. Voir Jésus veut t'enseigner lui-même pour rechercher sa justice. Nous savons qu'il y a une certaine forme de vie en enfer, sinon la douleur ne serait pas ressentie. Si tous doivent être mis en règle devant Dieu et recevoir la vie, après l'enfer vient le ciel. C'est mieux que la terre, mais loin d'être la vie que nous pouvons atteindre si nous devenons purifier et atteignons le royaume des cieux pendant que nous sommes sur terre, peut-être le « troisième ciel » dont Paul a parlé en 2 Corinthiens 2. L'accomplissement ici est relativement libre de pression, relativement libre de contraintes, libre de l'intensité de l'expérience en enfer. Ici, nous pouvons choisir des milliers de fois par jour ce que nous voulons faire. Là-bas en enfer, il y a peu de choix, seulement une obsession de faire les désirs de ton cœur avec une intensité répétitive au point qu'ils deviennent répugnants. Et finalement tu choisis de risquer le sacrifice de la vie qui te reste plutôt que de continuer rejetant ainsi le mal, haïssant le mal, et étant si dégoûté du mal que tu vis heureux pour toujours au service de l'amour, mais dans un état diminué par rapport à ce qu'il aurait été si tu avais choisi de fuir, de haïr et d'éviter le mal pendant que tu étais sur terre. L'état diminué et l'état supérieur m'ont été décrits comme « vivre dans des dimensions différentes ». Dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints du Temple. Ceux qui portent du fruit dans cette vie deviennent rois et prêtres, dans la présence du Seigneur et dans la gloire de sa puissance pour toujours, le servant. L'Apocalypse décrit le ciel comme le temple de Dieu et un parvis extérieur. Le temple de Dieu est pour le juif spirituel, ceux dont le cœur a été circoncis pendant qu'ils étaient sur terre, ils servent et adorent Dieu comme prêtre et roi dans le temple de Dieu, qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau, le Christ. Stephen Crisp, éminent ministre Quaker des premiers temps, a dit « Le parvis extérieur servait à représenter l'Église de Dieu en général, à partir du particulier. Le parvis extérieur n'était pas mesuré, afin que les gentils puissent y entrer. Les gens non baptisés qui n'avaient pas le baptême de la mort par le feu, aboutissant à un cœur circoncis, qui n'avait jamais été régénéré sur terre, pouvaient aller jusque-là dans le parvis extérieur, mais cela ne leur donnait pas droit au privilège de la maison de Dieu, ni à aucun cul. Mais ceux qui n'ont pas été purifiés, régénérés sur terre n'entrent pas dans le parvis extérieur avant d'avoir été purifiés dans les temps de feu. Encore le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui croient. 1 Tim 4, 9 dit « La pureté sur terre n'est pas une expérience agréable, car elle implique de souffrir à travers la tribulation et plusieurs épreuves de feu et le ministère de la condamnation, où ton pédagogue est la loi intérieure, après quoi vient le ministère de la vie, mais l'enfer est bien pire, il faut l'éviter à tout prix, c'est vraiment l'enfer. Cela semblera durer pour toujours dès les deux premières minutes. Cela se prolongera et prendra autant de formes différentes que tu as d'addictions. Tes addictions ne sont pas apparentes pour toi maintenant. Même si tu aimes lire des choses sur la violence ou regarder des programmes sur la violence ou le sexe, tu es bien plus dépendant que tu ne le réalises. Ces addictions sont détruites, non par la lecture, mais par l'action. Tu obtiens les désirs de ton cœur, mais parce que ces désirs sont mauvais, tu les obtiens sous forme d'avalanches, en quantité et répétition massive, afin que tu puisses en apprendre l'erreur et apprendre à les haïr. C'est vraiment une expérience d'épuisement. Tu dois parvenir à l'état où toutes les addictions te sont répugnantes et où tu les fuis automatiquement. Ainsi, quels que soient tes plaisirs, ils seront poussés à l'extrême jusqu'à devenir répulsifs. Dans les Alcooliques Anonymes, on parle de l'expérience de toucher le fond d'un alcoolique, se réveiller un jour dans le caniveau et se dire « Assez, j'en ai assez », résolu à se réformer avec l'aide supérieure disponible par la foi au nom de Jésus-Christ. Il en sera de même en enfer, tu seras poussé à une expérience de toucher le fond dans chaque convoitise et affection que tu as. Alors ils m'invoqueront, mais je ne répondrai pas, ils me chercheront de bonne heure et avec diligence, mais ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et n'ont pas choisi la crainte du Seigneur. Ils n'ont voulu aucun de mes conseils, ils ont méprisé toutes mes réprimandes, c'est pourquoi ils mangeront le fruit de leur propre voix et seront rassasiés de leurs propres désirs. Car le détournement de mon conseil des ignorants les fera périr, et l'insouciante facilité des insensés les détruira. Pro 1, 28-32 Dans ta souillure est l'abomination, parce que j'aurais voulu te purifier et que tu n'as pas été purifié, tu ne seras pas purifié de ta souillure avant que ma fureur contre toi ne soit épuisée. Ésaïe 24, 13 Si par la grâce nous ne parvenons pas à apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, puis à apprendre à vivre sobrement, justement et pieusement dans le siècle présent, dans la vie à venir nous rencontrerons sa fureur, mais accompagnés de compassion. Remarque. Si tu ne parviens pas à être purgé dans cette vie, la voie facile, tu seras purgé dans la vie à venir, la voie difficile. William Penn a écrit au sujet de la repentance forcée dans la vie à venir, s'adressant à ceux qui se disent chrétiens, mais n'ont jamais porté la croix et vivent encore dans le péché. Ô vous, prétendus disciples de ce Jésus crucifié. Examinez-vous, éprouvez-vous, ne vous connaissez-vous pas vous-même, si lui n'habite pas, s'il ne règne pas en vous, n'êtes-vous pas des réprouvés. 2 Cor 13 5 Ne vous trompez pas, car on ne se moque pas de Dieu, ce que vous semez, vous le récolterez. Galates 6 7 8 À la fin, avec des repentances forcées astérisque ce que vous semez, vous le récolterez au jour de Dieu. Je vous implore de m'entendre, et de vous souvenir qu'on vous a invité à recevoir et qu'on vous a offert le salut de Dieu. Astérisque Penn parle de repentance forcée dans la vie, à venir pour ceux qui ne se repentent pas par la croix dans cette vie. Dieu ne force notre repentance qu'indirectement. Il nous place dans les ténèbres sans son influence de retenue, de sorte que nous nous livrons aux désirs de notre cœur jusqu'à en être rassasiés, et qu'ils deviennent pesants, désagréables, puis finalement horriblement oppressants, si horribles que nous choisissons désespérément d'en sortir par la repentance. Le paradis des Vikings, le Valhalla, était l'endroit où ils sortaient chaque jour pour se battre jusqu'à la mort, puis revenaient à un festin d'ivrogne. Peut-être est-ce exactement ce qu'ils ont obtenu, jusqu'à ce qu'ils en soient mortellement écœurés. Prends conscience de tes désirs, affronte-les, sache que tu es un esclave de tes passions, de tes plaisirs, de tes habitudes, de ton orgueil et de tes convoitises. La fureur de Dieu consiste à ce que la lumière et l'Esprit du Seigneur se retirent de vous, lui qui vous a retenu dans votre vie bien plus que vous ne le réalisez. Lorsqu'il se retire, vous êtes laissé dans l'abîme de l'obscurité totale, c'est être jeté dans les ténèbres du dehors, la dimension du royaume de l'enfer. Sans la retenue qu'exerce la lumière sur le mal, votre cœur est libre de poursuivre toutes ses fantaisies avec obsession, et finalement, vos passions et vos fantasmes, avec la répétition continuelle des erreurs de votre vie terrestre, deviennent, l'un après l'autre, une horreur pour vous. Votre horreur se transforme en une crainte et une haine d'eux, jusqu'à ce qu'enfin l'amour de Dieu vous en délivre, un par un. Mais vous les haïssez tant que vous n'envisageriez jamais rien d'à peine semblable à l'avenir, lorsque vous êtes alors transféré dans le parvis extérieur du ciel. Ainsi chacun paie pour chaque erreur commise sur la terre, le temps passé dans ce comportement obsessionnel étant proportionnel à ses péchés commis sur la terre. Comme le Seigneur l'a dit, « Je rendrai à chaque homme selon ses voies, selon ses actes et ses œuvres. » C'est pourquoi ils mangeront le fruit de leur propre voie et seront rassasiés de leurs propres désirs, et ainsi leur temps sur terre leur aura servi à devenir sages, à la dure, et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Le souvenir des souffrances et de la douleur en enfer ne sera jamais oublié. Il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents, il y aura de la souffrance, mais pas pour toujours, et pour une raison jusqu'à ce qu'il soit réconcilié par l'amour avec Dieu. Une personne m'a écrit en me disant qu'il était impossible que Dieu mette les gens dans une situation où ils pêchent selon le désir de leur cœur, affirmant que j'essayais de rendre Dieu mauvais. Je dis que Dieu peut aisément vous placer dans un état de rêve où vous êtes soumis à des conditions extrêmes qui donnent libre cours aux inclinations de votre cœur, en pensant et en ressentant comme si c'était la réalité, mais cela ne se produit pas réellement. Sauf que, dans cet état, vous ne pouvez pas vous réveiller, et l'état dure jusqu'à ce que vous ayez payé jusqu'au dernier sou et que vous soyez totalement écœuré du péché. Nos rêves sont un aperçu de ce à quoi l'enfer peut ressembler. Quand j'étais en troisième année d'université, je me suis comporté de manière très irresponsable, séchant tous mes cours de 8 heures, n'allant que le jour de la rentrée puis au contrôle de mi-semestre et à l'examen final. Mes notes en ont souffert. Après l'obtention de mon diplôme, pendant 30 ans, j'ai fait un cauchemar récurrent où j'étais en retard pour mes examens de mi-semestre et incapable de me souvenir dans quelle salle avaient lieu les cours. Ce rêve et mon désespoir ont continué, jusqu'à ce que finalement, dans ce cauchemar, je conclus que je n'étais pas juste envers ma mère en séchant les cours, elle payait l'argent durement gagné pour m'envoyer à l'université, et je le gaspillais. Alors, dans mon rêve, j'ai décidé d'abandonner l'université et de trouver un emploi, je n'ai plus jamais eu ce cauchemar. Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire. L'Esprit de Dieu lutte avec nous, essayant de nous amener à découvrir l'erreur de nos voies. Quelles que soient les erreurs que nous avons commises dans cette vie, si nous ne les réglons pas avant de quitter cette planète, nous devrons les régler en enfer, et nous serons obsédés à les répéter jusqu'à ce que nous en soyons enfin tellement écœurés que nous décidions de faire ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. C'est une manière dure d'apprendre, bien plus dure que lorsque la bonté de l'Esprit de Dieu nous montre dans la lumière les péchés oubliés et secrets de notre cœur, puis les enlève. Un homme sage a dit un jour, pour devenir sage, il faut d'abord reconnaître que l'on est ignorant. Tant que vous ne savez pas que vous êtes esclave du péché, vous ne serez jamais libre. Ainsi, la première étape vers la liberté vis-à-vis du péché est de regarder votre esclavage. D'après la parole du Seigneur au-dedans, ceux qui refusent de regarder leur esclavage disent « Fais-moi entrer à l'Église ». Se ramène un choix quant à la façon dont vous voulez vivre. Comme un humain égoïste, en esclavage à votre colère, votre orgueil, vos convoitises, vos passions et vos plaisirs sans satisfaction durable, soumis à la fureur de la correction douloureuse de Dieu, ou préféreriez-vous être consacré à un but d'action et de parole qui soit pur, vrai, noble, propre, paisible, joyeuse, bénéfique pour ce qui vous entoure, et pleine d'amour pour votre Créateur tout en étant en union avec votre Créateur dans son royaume, lui vous aimant. D'après la parole du Seigneur au-dedans, ainsi ils doivent passer par la terre en devenant sages, sinon vous devez apprendre le bien et le mal à la dure en enfer. Le but de notre vie sur terre est d'atteindre l'état où nous haïssons tellement le mal que, même mis à l'épreuve sous pression, nous refusons de le reprendre. À ce point, nous sommes parvenus à l'état de perfection de Job. Job 2:3 dit, « Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y en a point comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant, abhorrant et se détournant du mal. Et il demeure ferme dans son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans cause. Et si nous devenons l'un des prémices, nous serons des rois, un serviteur comme le Christ et des prêtres pour toujours dans la proximité de Dieu, l'adorant et le servant, contemplant sa gloire, et étant comme lui, ne faisant qu'avec lui, l'aimant et étant aimé de lui. Tout le monde ne peut pas être roi, sinon nous chercherions tous à nous surpasser en service. On ne m'a pas dit exactement ce que feront les rois, de manière générale, je sais qu'ils grandiront à jamais dans l'apprentissage et l'amour. Mon opinion est que la vaste multitude de personnes qui n'atteignent pas la pureté sur cette terre sera servie par ceux qui sont devenus rois et prêtres. Si nous sommes choisis, nous ne pouvons nous en attribuer aucun mérite ni aucun orgueil, nous ne sommes que les bénéficiaires de sa grâce. Les élus n'ont pas été choisis parce qu'un jour, par leur seul mérite, ils ont décidé de chercher Dieu, non c'est Dieu qui nous attire à lui, puis il confie notre salut au Christ afin qu'il le mène à son achèvement. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Les élus ont répondu à l'appel de Dieu. Puisqu'il n'y a pas de temps pour Dieu, il savait d'avance qui répondrait à son appel par son choix. C'est la tâche du Christ de réconcilier toutes choses, ce qui inclut toute l'humanité avec le Père. La relative facilité et le confort de l'accomplissement dans cette vie, et les récompenses offertes à ceux qui atteignent la pureté et la réconciliation dans cette vie, font que l'effort suprême pour atteindre la pureté et le royaume dans cette vie relève simplement du bon sens. Chérissez votre temps, tant qu'il vous est encore donné. Priez le Père de vous motiver davantage en vous attirant à lui pendant que vous êtes sur terre. Offrez-lui vos meilleurs efforts de toute une vie en échange de son attrait vers lui. Doutant de son existence, j'ai un jour fait une telle prière, et il a répondu par une expérience indélébile, une expérience dont il m'a dit que n'importe qui peut l'avoir s'il la demande humblement. Cette expérience a créé une faim qui m'a motivé pendant plus de 25 ans. En attendant le Seigneur, il a dit à ma femme, « Sois la meilleure possible. Pour moi. » pour son bénéfice autant que pour le tien. Pour répéter ce qui est dit ailleurs sur ce site, et à ceux d'entre vous qui atteignent la perfection, à ceux qui parviennent à la pureté dans cette vie, en le faisant en portant du fruit, vous vous montrez de vrais disciples du Christ, et il apporte alors honneur et gloire à notre Père. Y a-t-il autre chose qui vaille la peine d'être recherchée? Car s'il existe un moyen de rendre à notre Père notre souffle, les battements de notre cœur, notre vie, notre Sauveur qui nous a frayé le chemin, alors c'est la seule chose à vouloir. Toute autre chose doit passer au second plan derrière la passion de rendre gloire au Fils et au Père. Quant à moi, sachant que je peux peut-être faire cela pour le Christ et le Père, aussi insignifiant que je sois, je consacre volontiers ma vie à le faire, et je suis éternellement reconnaissant de cette opportunité. Car avec le succès, nous devenons unis à Dieu, et nous agissons selon le dessein, la volonté et le bon plaisir de Dieu. Et notre plaisir est d'avoir un dessein propre, pur, saint, parfait dans toutes nos paroles et nos actions, être un instrument de justice entre ses mains, entièrement consacré à une vie d'amour. Le but de ce site est de vous montrer que c'est possible, de vous aider à saisir l'espérance pour vous-même, de vous montrer comment porter votre croix, et de vous montrer comment laisser Jésus vous purifier par grâce pour votre entrée ultérieure dans l'unité avec le Christ et le Père dans le royaume des cieux, dès ici-bas. Pour en savoir plus sur la manière d'être purifié dans cette vie, allez à la page d'accueil puis à comment bénéficier de la puissance transformatrice de Dieu en attendant le Seigneur. Car si vous vivez selon la chair la nature pécheresse, vous mourrez certainement, mais si par l'Esprit, vous faites mourir mettez à mort les œuvres du corps, vous vivrez. Rome 8, 13. À ceux d'entre vous qui veulent soutenir que j'ai, d'une manière ou d'une autre, mal interprété les passages bibliques cités ci-dessus, qui me semblent très clairs et faciles à comprendre, je ne discuterai pas avec vous, je ne répondrai pas car le serviteur du Seigneur ne doit pas disputer, 2 Tim 2, 24. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu au moyen de la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.